Anonyme, une apparition. Quelque jour, j'étais à Dieppe. Je ne décrirai pas cette ville, il y a très peu de touristes qui ne l'aient visitée. Un armateur de mes amis m'avait offert l'hospitalité. Un matin, un convive manqua. Nous allions nous être très à table. La maîtresse du logis, une fleur normande ayant de l'esprit à revendre, que de gens dans ce temps-là comme ailleurs ne savent pas en pourvoir. La maîtresse du logis, dis-je, ayant de l'esprit à revendre, et superstitieuse comme un sonneur de cloche, ce n'est pas peu dire, nous fit part de son embarras, mais où elle se trouvait. Je voulus la plaisanter sur ce que j'appelais une faiblesse. Mais, moitié riant, moitié boudant, elle se défendit avec beaucoup d'habileté, me cita avec un grand sérieux, deux ou trois morts subites arrivées à la suite d'un repas à 13 personnages. Et elle nous menaça de nous laisser déjeuner seuls. Oh, je me fus jeté à ses genoux pour la retenir, mais elle n'avait pas envie de s'en aller. Après avoir réfléchi un instant, elle dit à son mari: mon ami, il n'est que ce pauvre monsieur B que nous puissions inviter au pied levé. Oh, triste convive. Oui, mais ces messieurs sont habitués à lui. Et pendant que je vous l'enverrai chercher, je mettrai monsieur, c'est moi qu'elle désignait, au courant de la situation. Puisque vous le voulez. Mais le faut, mon ami. L'armateur, très soumis, très docile, ne répliqua point. Il prit son chapeau, sa canne, et partit, leste comme un lévrier royal. J'entrevoyais une histoire émouvante et finement assaisonnée. Elle ne se fit pas attendre. Madame X était bien de son pays. Dans ce pays-là, comme dit un voyageur véridique, les filles et les femmes ne vont jamais sans leur langue. Je me suis étonné 100 fois comment de si grandes langues pouvaient tenir dans de si petites bouches. Madame X avait une bouche adorable et elle racontait comme un ange. Tout le monde fit cercle par galanterie, et elle commença ainsi. Monsieur B n'est plus de ce monde. Depuis 10 ans, il est mort moralement. C'est un ami de ma famille. Jamais je l'ai connu d'homme plus aimable, plus fin, plus railleur, plus spirituel, plus caustique au besoin. Et aujourd'hui, il ne lui reste plus rien. C'est l'ombre de lui-même. C'est l'enveloppe d'un homme. Jeune encore, 40 ans, mais vieux avant l'âge. Le visage blême, sans expression, le regard éteint. Où il entrera, saluera, prendra place parmi nous, déjeunera par esprit d'imitation, mais il ne prononcera pas une parole. Il sera seul, toujours seul. La conversation, le bruit ne pourront pas le distraire. Gardez-vous de l'interpeller. S'il vous arrive par distraction de vous adresser à lui en causant, n'insistez pas pour qu'il réponde. Un vénérable ecclésiastique qui s'occupe de lui avec une résignation divine et quelques amis privilégiés, au nombre desquels figure mon mari, peuvent seuls obtenir de lui quelque chose. Pour tout le reste, il n'a que des malédictions et qu'il prononce d'une voix sépulcrale qui glace d'effroi. Mais vous excitez ma curiosité, belle dame. Quelle est la cause d'un aussi grand malheur? Il y a 10 ans, M. B était magistrat dans une petite ville de Bretagne. Par coquetterie, il restait garçon. Son grand air, sa fortune, son esprit lui avaient ouvert tous les salons où l'on savait vivre. Il courait de château en château et menait joyeuse existence. Légèrement voltairien, ayant l'esprit du temps, mais il savait bien s'humilier auprès des femmes rigoristes et faire sa cour aux héroïnes de sentiment qui faisaient qu'il rentrait promptement en grâce. Un soir, il revenait de chasse en compagnie de quelques gentilshommes de l'endroit, suivant un de ces petits chemins creux si communs en Bretagne, hérissés d'ajoncs en fleurs d'un côté, bordés de pins de l'autre, et tant de pauvres vieilles croix de pierre, symbole d'une sainte croyance, désigne les points d'intersection. En passant devant chaque croix, M. B faisait comme ses compagnons de chasse. Il levait son chapeau, mais ceux-ci étaient réellement pieux, tandis que lui était chasseur avant tout. Et avisant de loin un oiseau de nuit perché sur une croix, il fait signe à ses amis de se tenir immobile, et avant qu'ils aient eu le temps de l'arrêter d'un mot, il lâche son coup de fusil et il court après l'oiseau qu'il voit tomber. Il cherche en vain dans les bruyères et il entend à côté de lui un ricanement railleur. Il se redresse et se trouve en face d'une petite vieille couverte de haillons et plié en deux sur une béquille. « Eh bien, mon bon monsieur, lui dit-elle, en le regardant avec ses petits yeux qui brillaient comme ceux d'une bête fauve. « Eh bien, monsieur, ne cherchez pas plus longtemps. Un oiseau tiré sur une croix bénite, le diable l'emporte. » Que l'histoire me racontez-vous là, la vieille? Cherche donc ce que tu voudras, et sauve ton âme, si tu peux. Monsieur B s'était baissé et fouillé du pied les genêts. Il levait les yeux. Ah, la vieille avait disparu. Par où s'était-elle enfuie? Le champ de genêts s'étendait au loin, il n'y avait pas une forme humaine. Ses amis le rejoignirent. Arrivé au pied de la croix, les chiens qui tenaient en laisse poussèrent des hurlements plaintifs. Le père fut abandonné et on eut beau les exciter de la voix, du fouet. Les pauvres bêtes refusèrent le service. Avez-vous vu la vieille? Dit tout ému Monsieur B à ses amis. Quelle vieille? Ben, celle qu'il y a quelques instants était à mes côtés. Ben, vous voulez rire, dirent-ils tous d'une voix. Il n'y avait personne auprès de vous. Mais si, parbleu, une mendiante qui m'a même dit en ricanant d'une façon étrange que le diable avait emporté mon oiseau. Quelle plaisanterie, répliqua l'un. Je ne vous ai pas perdu les yeux. Je vous ai vu tout seul, parfaitement seul. Ah, une apparition, s'écria un autre. Excellente histoire à rapporter au château. Et tous de rire, sauf Monsieur B, qui resta sérieux. Je ne crois pas aux apparitions, reprit-il. Et pourtant, messieurs, je vous jure que j'ai vu cette vieille. Elle m'a parlé, je lui ai répondu. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Et ces chiens, sont-ils dans leur état naturel? Pourquoi ces hurlements? Pourquoi n'obéissent-ils plus au fouet ni à la voix? Tenez, l'entendez-vous? Elle rit encore. Il me semble en effet que j'ai entendu quelque chose, dit l'un. Oui, ajouta un second, c'est bien un ricanement. Bah, dit un troisième, c'est quelque animal inconnu qui chante sous la terre. Voulez-vous bien qu'elle soit passée, votre vieille? C'est une hallucination, mon cher. On ne tire pas sans émotion un coup de feu sur un oiseau, sur une croix. Tout esprit fort que vous êtes, vous avez été troublé, vous avez cru voir et vous n'avez rien vu. Vous avez cru entendre et vous n'avez rien entendu. C'est mon opinion, dit un docteur qui était de la partie. Il y a dans le corps humain un organe infiniment mobile, délicat, capricieux, puissant les nerfs. Il y a dans l'âme une faculté si infiniment mobile, délicate, capricieuse, puissante, l'imagination. Vous avez vu et entendu par l'imagination ou avec les nerfs seulement. Trêve de raillerie, messieurs, s'écria Monsieur B. Il s'est passé quelque chose de surnaturel. Et on rentra au château. Monsieur B ne parut pas au dîner. On fit à table des mille plaisanteries sur la vision dont il avait été le jouet. On se montra d'autant plus impitoyable qu'on le savait, esprit fort. Les dames étaient peu rassurées. L'une d'elles, qui consacrait sa fortune à de saintes œuvres et dont la parole faisait autorité en matière religieuse, dit en remuant la tête d'une façon sinistre, bon, cette vision pourrait bien être l'annonce d'un grand malheur. N'est-ce pas une action sacrilège, messieurs, que de tuer un pauvre oiseau qui s'est réfugié sur une simple croix, emblème de rémission et de salut? Monsieur B avait affaire à la ville le lendemain, de bonne heure. Avant le lever du soleil, il fit atteler et partit. Il était en cabriolet et conduisait lui-même. Le brouillard qui couvrait la terre était épais. À l'angle que faisait un chemin de traverse avec la route qu'il suivait, s'élevait une croix de bois peinte, décorée de tous les emblèmes de la Passion. Lorsqu'il en fut tout proche, une forme humaine se dressa tout d'un coup au pied de cette croix et sauta sur le marchepied de sa voiture. Jugé de son effroi, c'était la vieille femme de la veille. Il voulut la repousser. Il n'en eut plus la force. Ses membres étaient roides, inertes, glacés. « Eh bien, beau chasseur, lui dit-elle en ricanant, tu as trouvé ton bel oiseau ?» Monsieur B ne put répondre. Tu l'as longtemps cherché, hein, hier. Tu dois être content de me revoir. Même silence. On dirait que tu as peur. Non, vieille maudite, dit Monsieur B, qui surmontait son trouble et avait tiré un pistolet de sa poche. Retire-toi, ou je fais bon marché de ta vie. Là, là, calme-toi, mon maître. Je ne te fais pas de mal. Pourquoi m'en ferais-tu faire? Mais qui es-tu? Dit Monsieur B, en armant son pistolet et en lui plaçant le canon sur la gorge. Bon, une pauvre vieille femme qui vit au monde. Tu mens. C'est Satan qui t'envoie pour me faire peur et me tourmenter. Fais le signe de la croix ou je te tue comme un chien. Voyez-vous le grand fainéant qui veut tuer une femme? Fais le signe de croix, lui dis-je. La vieille lui crache au visage, il lâche la détente. Le coup partit, et le cheval, effrayé, prend le mort aux dents. « Je savais bien !» s'écrie Monsieur B, en reportant sur la pensée, en revenant sur la pensée à l'événement de la veille, que ce n'était pas une plaisanterie. Ni une vision. Non, ingrat, non, misérable, répond une voix stridente qui fait tomber les guides de main. La vieille, montée sur l'autre marchepied de la voiture, le menaçait de sa béquille. Mais je suis moins méchante que toi, tu vois. Voici l'oiseau que tu as tué hier. C'est une orfraie. Garde-le en souvenir de moi. Seulement, comme toute peine a une récompense, tu vas te montrer généreux. Voyons, que me donnes-tu? Oh, je serai peu exigeante. Un gros baiser. Retire-toi. Si ma première balle ne t'a pas atteinte, je vais t'en envoyer une seconde. Oh, assez d'une, dit-elle. Tu m'as touché au cœur, regarde. Et la vieille, écartant ses haillons, mit à nu sa poitrine d'où le sang s'échappait en abondance. La blessure était bien dans la région du cœur. « Tu m'as fait mal, reprend la vieille. Mais tu peux te guérir. Si tu poses tes lèvres sur ma plaie, je vivrai encore. Je ne veux pas mourir. Va-t'en, répond avec épouvante Monsieur B, en armant un second pistolet. La vieille, à ces mots, lui appliqua un coup de béquille sur la tête. Il fit feu et tomba inanimé au fond de sa voiture. Peu à peu, le grand air, le froid du matin le rappelèrent à la vie. Une heure fraîche gisait à ses pieds sur la paille. Le soir même, il fut appelé à constater un assassinat qui avait été commis dans une direction opposée à la route qu'il avait suivie le matin. Et quand on lui présenta le cadavre, il jeta un grand cri et perdit connaissance. Il avait reconnu la vieille femme à leurs frais. Elle avait une balle au cœur et une balle dans la tête. Monsieur B fut longtemps enfermé dans une maison de santé. Sa raison est revenue, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un instant, ce n'est plus un homme, c'est l'ombre d'un homme. Là se termina le récit de la maîtresse de la maison. Tous les assistants confirmèrent la véracité. J'étais curieux de voir Monsieur B. Il n'accepta pas l'invitation. Alors on le remplaça par un jeune pilotin qui fut tout à fait heureux de cet honneur et nous fûmes 14 à table. Je ne crois pas aux apparitions. Et pourtant...